Bonjour Georges Anglade, bienvenue dans le 6-9. Et avec vous, on va suivre cette étude passionnante sur la pauvreté, la misère et surtout l'état d'Haïti dans lequel il se trouve et la responsabilité surtout internationale qui en découle. Donc, on avait déjà vu dans le premier, la semaine dernière, dans le premier numéro, donc, toute la sémantique autour de la détermination et ce que voulaient dire réellement les mots entre pauvreté et misère et ce que ça engendrait de réalité sur le terrain.
Oui, alors je dis bonjour Philippe.
Bonjour.
Et Thomas. Bonjour à tous les auditeurs. Donc, ce rendez-vous du mercredi matin. Magique 9, que nous prenons donc le temps de regarder, l'hebdo, paru ce matin,
enfin qui dans
le Nouvelliste ce matin, et sous le titre de ce que le président d'Haïti devrait écrire au nouveau président du FMI. Philippe vient de présenter le contenu, mettre en situation cet hebdo, c'est-à-dire d'abord cette question de pauvreté et de misère qui n'est pas une question innocente, ni une question banale, ni une simple question de mots, c'est nettement plus important. C'est excessivement important même. Et on va tenir là-dessus. Et deuxième aspect que l'on va voir également, suivre enfin cet hebdo et vous inviter à y participer.
Mais surtout, ce que je tenais à dire quand même, c'est que ce qui est paru donc dans l'hebdo ce matin, dans le journal Le Nouvelliste, c'est une lettre ouverte. Et une lettre ouverte, pas à n'importe qui, à DSK, à Dominique Strauss-Kahn, qui est le nouveau président du Fonds monétaire international. Et je pense qu'il aura, cœur à prendre en considération vraiment ce que vous écrivez. Et je pense que par sa sensibilité, il y sera contraint, de toute façon, sans aucun problème. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je me suis livré à une petite expérience sur la différenciation que vous faites à juste titre entre misère et pauvreté. Simplement en allant sur Internet, sur un moteur de recherche, quel qu'il soit d'ailleurs, j'ai tapé pauvreté et j'ai obtenu 748 659 réponses exactement. J'ai tapé misère, je n'ai obtenu que 465 648 réponses. Déjà, il y a un gap, un trou entre les deux. Mais surtout, le plus important, c'est quand on tape pauvreté, là, on a vraiment tous les sites, Banque mondiale, Fonds monétaire international, tous les ONG, tous les fonds d'aide, etc. Quand on tape misère, tous ces sites-là disparaissent. On n'a que des références littéraires, des références étymologiques ou autres. Donc ça va tout à fait dans le sens de ce que vous nous avez écrit la première fois et dont on découle ici pour la deuxième partie.
Tout à fait, tout à fait. Dès qu'on parle de misère, on est renvoyé à Saint Thomas d'Aquin, on se met à tourner autour de toute une démarche quasi-littéraire, mais qui est la même démarche depuis le début, c'est-à-dire l'effort énorme de toujours dire « il faut distinguer pauvreté de misère parce qu'autrement, on se bloque ». Et d'ailleurs, depuis Saint Thomas, puisqu'on y remonte, c'est Saint Thomas d'Aquin,
oui.
Et le thomiste disait « la pauvreté, c'est la pauvreté, c'est peut-être l'accès au nécessaire. La misère, c'est on n'a rien du tout. C'est-à-dire
et surtout c'est vraiment, aucune espérance,
aucune dynamique, aucune capacité. C'est ce qu'on appelle l'anomie totale. C'est-à-dire on est gelé et puis on tourne en rond. Et c'est simplement ceci que montraient justement les travaux de Amartya Sen. C'était toute cette dynamique qui se retrouve en pauvreté et tous les travaux qui ont suivi sur la pauvreté ensuite, qui est une chose extrêmement importante que l'on a disqualifié en l'amalgame à misère. Donc le grand combat théorique, mais le grand combat réel, une ligne de bataille qui est en train de se définir actuellement à l'échelle mondiale, c'est vraiment cette distinction entre pauvreté et misère. Tout simplement ne plus appeler la misère l'extrême pauvreté.
Oui, comme on le dit, on masque les mots.
On masque les mots. Quand on dit extrême pauvreté, c'est qu'on piège encore pauvreté. Il faut dépiéger pauvreté. Il faut réhabiliter cette notion de pauvreté et la distinguer de misère. Parce que quand même, on ne peut pas dire ce qu'on propose aux gens, c'est l'aisance ou la richesse. Ce ne sont pas des catégories recevables. Donc, ce premier point. Et la deuxième partie de cette lettre propose autre chose, c'est que Haïti a été, depuis plus de 5 siècles, le banc d'essai de l'Amérique, le paillasson de l'Amérique. Pour entrer dans les Amériques, il a fallu passer par Haïti. Et de 1492 à nos jours, les cinq grands tournants qui se sont pris dans cinq siècles dans les Amériques, aussi drôle que ça paraisse, mais de manière très précise, c'est toujours par Haïti et Haïti qui fait les frais de l'expérimentation du nouvel ordre qui va émerger. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un banc d'essai. 1492, c'est la colonisation. 1492, donc, ils arrivent et tombent sur Hispaniola. Ils vont mettre en place les repartimientos, c'est-à-dire les distributions donc, d'Indiens entre les différents. C'est le génocide qui se fait de manière radicale en 10 ans. Ce sont les maladies, c'est le rapport à l'or qui avait été l'orfèvrerie très fine des Mayas depuis un millénaire, qui était l'orfèvrerie de la Tumbaga, et qui est complètement fondu en lingots. Enfin, Haïti fait les frais, là, et génocide, repartimientos, et on voit ça. Mais plus loin, dès qu'on sort de cet espace, si vous voulez, de l'or et
de la conquête pure et de l'or, plus loin,
on passe à la colonisation.
Voilà.
Vous avez 1685, qui est le grand tournant et qui est le grand texte, qui est le Code noir, qui est le Code noir français, qui redéfinit ce rapport à la colonisation dans les Amériques, dans la Caraïbe, au moment où Saint-Domingue va devenir l'équivalent du Koweït actuel. C'est-à-dire, il faut voir vraiment Saint-Domingue comme le Koweït, qui dans l'économie française pèse d'un poids énorme, plus des deux tiers, et qui va jouer un rôle fondamental. Et bien, c'est le Code noir. Et le Code noir se met d'abord en application et crée ce nouvel ordre à partir de Saint-Domingue du XVIIIe siècle, qui va être le fleuron, enfin, on l'a dit, c'est donc le Koweït du 19e
siècle.
Et puis on continue, 1804, 1915, 1990, et on se rend compte que le pays joue toujours le même rôle.
Voilà.
C'est-à-dire, on banc d'essai, l'Amérique essaye son nouvel ordre sur Haïti, et puis ensuite, une fois le nouvel ordre bien expérimenté, on connaît les limites et tout, on s'en va, et puis on laisse ce pays pris depuis un siècle avec les retombées de l'expérimentation. C'est comme si on éclatait une bombe atomique et puis les retombées radioactives,
vous
débrouillez avec. D'où l'état où on est actuellement, c'est la conséquence de toutes ces utilisations extrêmes et ensuite abandon du banc d'essai.
L'abandon du banc d'essai dû aux grandes puissances et aussi à des organismes internationaux, sans toujours mettre l'accent sur les pays. Il y a aussi des organismes qui ont joué un rôle là-dedans. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que déjà, donc, tous ces pays, mettons principalement les États-Unis, qui ont essayé donc des expériences, parce qu'on ne peut pas dire autre chose, hein, ce sont des expériences qu'ils ont essayées en Haïti et sur le peuple haïtien, n'ont pas marché.
Non.
N'ont pas marché. Parce que quand ils ont quitté, à la limite, c'était pire qu'avant. Donc, à chaque fois, ça a été des expériences qui ont été dramatiques pour Haïti, mais qui n'ont apporté, je dirais, aucun bénéfice, même pour le reste du monde. Et on peut le voir en Amérique du Sud, en Amérique centrale, d'ailleurs. Et vous l'évoquez, d'ailleurs, dans votre papier.
Oui, on l'évoque. On regarde les grandes désaccumulations du XXe siècle. Il y en a eu deux. L'occupation américaine 1915-1934, on peut dire, bon, quand on le regarde strictement du point de vue haïtien, on voit l'effet à l'intérieur. D'abord, les 50 000 morts qu'il a fallu et les non-naissances pour réduire la guérilla de Charles Perrin, de Batraville, toute cette guérilla qui est de résistance jusqu'en 1920, mais surtout, et le coup terrible, c'est l'exportation, la traite verte. Un tiers de la population mâle haïtienne va être transportée dans les canets cubaines et dominicaines. Pour l'économie américaine en 1920, et à ce moment-là, c'est qu'elle se déploie et qu'elle fait des investissements massifs en République dominicaine et à Cuba, mais elle a besoin de main-d'œuvre pour ces investissements massifs qui sont dans la canne à sucre. Alors, il pense, et l'économie se joue ainsi, c'est comme si Cuba, Haïti, République dominicaine ne faisaient plus qu'un seul espace, Haïti fournissant sa main-d'œuvre, et les capitaux s'investissent ailleurs. D'où cette immense migration provoquée par ce développement du capitalisme américain s'investissant dans le sucre cubain et dans le sucre dominicain, avec une main-d'œuvre obligatoire qui ne pouvait être que la main-d'œuvre haïtienne, qui, elle, était pléthorique, grande, certes, 2 millions d'habitants à ce moment-là, mais plus encore, elle était turbulente. Elle avait son 1804 prêt au loin, elle avait été guerrière, elle venait sortir d'une grande guérilla, l'exporter dans des canets en République dominicaine et à Cuba, c'est éliminer tous ces terroristes potentiels, tous ces guerriers potentiels, et les transformer en prolétaires dans les grandes canets. Donc voilà, quand 34 se termine, eh bien, le pays se retrouve ayant perdu cette population, désaccumulée totalement, une mémoire qui s'en va pendant 20 ans, une classe dominante qui est complètement étripée, même l'histoire littéraire bloquée, c'est-à-dire, puisque nous sommes dans la semaine l'hérisson,
oui.
Dit, tout le grand mouvement de la l'audience haïtienne à partir de l'hérisson Ibert et à partir du journal Le Soir est bloqué en 1914-15 et ne reprendra que 100 ans après. Parce qu'on perd la mémoire de ce grand mouvement par 20 ans d'occupation américaine. Donc c'est une désaccumulation totale. Et à chaque grande désaccumulation, il faut à peu près 100 ans pour revenir au niveau où on était.
Ouais.
Pour atteindre le niveau intellectuel,
oui, c'est, le cycle,
c'est
oui.
Ça, le niveau intellectuel de 1900-1905, autour du journal Le Soir, 1910-1914, la somme de production qui se fait entre 1900 et 1910, il nous faut littéralement atteindre 2000. 2000 pour avoir le même nombre d'écrivains, cette même dynamique, cette explosion, ben ça met un siècle quand on a une désaccumulation de ce type se refaire.
Et d'ailleurs, il y a des effets aussi que l'on voit encore quand on parlait qu'on avait pris effectivement de la main-d'œuvre haïtienne pour Cuba et la République dominicaine. N'oublions pas que de l'autre côté de la frontière, pas loin, il y a encore beaucoup d'Haïtiens qui vivent sous un régime proche de l'esclavagisme
C'est l'un des problèmes clés.
C'est un des problèmes clés
actuels.
Hein, qui subsiste encore avec des effets dramatiques. Ce que je voulais revenir, c'est est-ce que vous voyez, vous, la possibilité justement où quand même, on voit que Haïti a rejoint un processus démocratique et maintenant est considéré comme une nation vraiment réellement indépendante avec un président dont on c'est pas la peine de le juger ici, c'est pas le problème, mais qui a réussi à repositionner Haïti sur la scène internationale quand même, et notamment on bénéficie aussi des changements politiques qui se passent en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Notamment, on l'a annoncé hier, c'est que la création de la Banque du Sud, qui sera faite avec le Venezuela, l'Argentine, Cuba, enfin 6 ou 7 pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, pour justement essayer, je dirais, de pallier aux insuffisances du FMI ou de la Banque mondiale, est-ce qu'on peut voir une certaine lueur?
Ah oui, écoutez, et la bataille qui s'était faite pour l'émergence, bon, il fallait un chef, et des gens avaient réfléchi et s'étaient dit, il fallait celui-là, disons René Préval, pour deux raisons très simples dès le départ. Et ceux qui le connaissaient bien, ceux qui savaient les potentiels et les conjonctures, il allait être remarquable et peut-être unique dans deux domaines. Celui de la sécurité, c'est-à-dire se traquer au quotidien et le terrorisme, l'empêcher de changer de nature, surtout l'empêcher de devenir plus grand, plus gros,
tout à fait
démesuré, comme ailleurs. Donc le bloquer là et le réduire à mesure le long de son mandat, on le savait capable de ceci parce que c'est l'un de ses talents. Deuxièmement, c'était la représentativité du pays à l'échelle internationale, cette manière est très particulière qu'on l'a vu développer au cours des années et qui était cet apparent profil bas qu'il met dans l'ensemble de ses réactions et les convictions qui l'anime qui sont simples, nettes, toujours précises, c'est-à-dire ce pays, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, énormément de pays autour d'Haïti doivent à Haïti des choses. C'est-à-dire les États-Unis doivent énormément, ne serait-ce que cette grande émigration, avant même de parler de bataille de Savannah d'indépendance.
Oui.
Cuba doit en 3 fois à l'émigration haïtienne le report de développement de son économie. La République dominicaine doit à Haïti énormément avec cette main-d'œuvre, etc. Le Venezuela et l'Amérique latine doivent à Haïti. Et cette conception élémentaire, fondamentale qu'il a, Haïti a énormément autour de lui ou d'elle, enfin, je vais le mettre, le pays a énormément autour de lui de personnes qui lui doivent des choses, et lui, il va tranquillement faire une diplomatie de récupération de la dette, des dettes. C'est-à-dire, il va s'adresser à chacun des pays autour comme quelqu'un qui passe, un créancier qui passe toucher ce qu'on lui doit tranquillement et le plus simplement du monde. D'où cette capacité quasi innocente de sortir de Caracas chez Chavez pour aller immédiatement à Washington chez Bush, foncer chez Fidel Castro et rebondir chez Leonel Fernandez en République dominicaine. Alors, les diplomates traditionnels ouvrent de grands yeux et disent « Mais comment on fait ça ?» Mais simplement, si vous savez que tout le monde vous doit, il passe toucher son loyer partout, il passe toucher ses créances partout. Donc, avec ces clés de base, avec ces deux leviers de base, on voit les résultats à l'échelle globale, c'est-à-dire on remet le pays dans le contexte international, sur la map, comme on dit, on réduit un peu le... On réduit de plus en plus et puis jusqu'à trouver des solutions au niveau de la sécurité. Maintenant, c'est la partie que l'on pouvait attendre. Alors, il reste l'autre partie maintenant, et c'est là que va se poser les grands problèmes. Je ne suis pas un spécialiste de ceci. C'est toute l'impulsion qu'il faut pour gérer maintenant. Il faut gérer une capitale de 2,5 millions qui va passer à 5 millions. Il faut gérer une agriculture de 7 millions de personnes, rurale de 7 millions de personnes, dont 6 millions sont en mouvement de marche pratiquement vers Port-au-Prince, vers quelque chose qui éclate. C'est la fin d'un parcellaire agricole, il faut des interventions. C'est l'université qui doit accueillir actuellement 100 000, 200 000 étudiants, qui n'en accueille que 10 000 et qui ne peut pas continuer à faire ça. C'est-à-dire il y a l'autre partie de ces deux points, qui est, si vous voulez, la gestion. Alors, les Haïtiens ont une expression, ils disent « amener la couleuvre à l'école, c'est un, la faire asseoir, c'est deux ». Alors, on était sûr qu'avec ce gouvernement, on pouvait amener la couleuvre à l'école. C'était les deux points qu'on vient de voir. Maintenant, pour la faire asseoir, tout le monde était certain, enfin, notamment moi, que ce n'était pas la meilleure combinaison pour y arriver. Il faut la trouver. Jusqu'à présent, on regarde aller tout ça et puis on se rend bien compte que la couleuvre s'est rendue à l'école, mais pour la faire asseoir, on en est loin.
Elle n'est pas encore assise. Pour en revenir, je dirais, à la genèse de cette discussion entre pauvreté et misère, quelque chose qui m'a frappé, ce que vous dites tout à fait, c'est que dans la pauvreté, il y a, et on peut avoir de la dignité, mais pas dans la misère.
Ah, non, oui, alors la distinction est fondamentale à faire. Dans la misère, c'est l'abjection, c'est l'horreur, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de dignité, rien. Mais dans la pauvreté, c'est l'état normal de la civilisation depuis 30 siècles. Oui. Être pauvre, c'est-à-dire ce qu'on définit par la pauvreté, ce qui s'était toujours défini comme la pauvreté, était d'avoir, jusqu'au 19e siècle, était d'avoir, si vous voulez, ce minimum qui permettait de reproduire sa force de travail, de s'instruire en une génération, de changer de catégorie sociale parfois par les enfants, et de pouvoir régler ses problèmes, et surtout d'avoir encore le ressort qu'il faut pour saisir les opportunités qui passent. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement d'avoir un minimum de moyens, mais c'est l'opportunité. Chaque jour, il se présente des occasions d'affaires, des opportunités de développement, des capacités de se développer, par exemple, comme littéraire ou comme scientifique. Toutes ces opportunités qui passent, avoir le ressort nécessaire pour aller prendre ces opportunités. C'est ça, l'état de pauvreté. Pas de superflu. Rien de super.
D'accord.
Bon, c'est presque ce qu'on va appeler il existe une expression, la simplicité volontaire, qui est ce retour à la pauvreté, ce mouvement de retour à la pauvreté. Une simplicité volontaire, c'est-à-dire éviter au maximum le superflu au profit du nécessaire. Et distinction que faisait Saint Thomas d'Aquin.
Tiens, déjà, oui.
Je le reprends. Oui, et qu'on continue à faire. Maintenant, la misère, c'est tout à fait autre chose. C'est vraiment, alors qu'en pauvreté, on a 60 000 gourdes par an, c'est-à-dire 1 000 $ par mois, et qu'on définit ce que sont les 5,6% de personnes en pauvreté, la misère des 80%, c'est 1 000 $ par année. C'est 5 000 gourdes par année, par famille. Donc, c'est vraiment l'extrême dramaturgie. Alors, quand on est en misère, on ne pense qu'à manger. Quand on est en pauvreté, on ne pense qu'aux opportunités. C'est déjà énorme différence. Hein. Le prix
ça fait
l'état
d'esprit totalement différent.
Il y a un minimum de bouffe d'assumer, un minimum d'école d'assumer, et on est ouvert aux opportunités.
Ça nous permet de pouvoir se projeter dans l'avenir et d'essayer de trouver des solutions.
Dans la misère, non. C'est la horde qui ne pense qu'à manger.
Je sais qu'on vous lira dans les prochains numéros des solutions très pertinentes sur ce problème. Je reviens, là, on va finir notre entrevue. Je sais que cette lettre, donc, ouverte à Dominique Strauss-Kahn, donc le président du FMI, le nouveau président du FMI, je sais que aussi vous avez visé quelqu'un d'autre qui la lira certainement à travers DSK quand même.
Oui, écoutez, oui. Ce qui se présente ce matin dans le journal, c'est très simple, c'est ce que le président d'Haïti devrait écrire au nouveau président du FMI.
Voilà, c'est ce que je voulais. Que ce soit vous qui le disiez.
Ok, voilà. C'est même le titre. C'est que je connais bien cette mécanique-là, des lettres que les présidents doivent écrire aux autres présidents, notamment FMI, Banque mondiale, mais de président à président. Et ceux du cabinet privé des présidents savent très bien que, bon, ces lettres sont écrites comme elles sont écrites, etc. Alors, un président, dans une conjoncture donnée, va demander à X, Y ou Z de lui écrire une lettre, et cette lettre va être discutée par 3-4 personnes au moment, avant
des
que la lettre ne soit envoyée.
Des directeurs de cabinet, etc.
Et Préval a une très très longue expérience de ces lettres, ayant lui-même beaucoup écrit de ces lettres, beaucoup lu de ces lettres, participé à la rédaction commune de ces lettres. Donc, il sait très bien cette grande mécanique derrière, je la connais aussi. Et alors maintenant, ce que j'ai simplement préparé pour, en le dédicaçant d'ailleurs à Justin Lérisson qui savait faire ça, à Tonton Or, président de l'époque, c'est de dire, bon, monsieur le président, voilà, je vois que vous traînez, je vais vous préparer la lettre qu'il faudrait. Alors, on vous propose cette lettre à écrire à Dominique Strauss-Kahn, voilà, je l'ai dit ce matin, et Justin Lérisson l'aurait fait aujourd'hui, et pour le centenaire de sa mort. Voilà la lettre qu'on s'attendrait à ce que vous, monsieur le président d'Haïti, vous écriviez au président du Fonds monétaire international, qui vient d'entrer en fonction début novembre, et que Dominique Strauss-Kahn devrait donc recevoir de René Préval cette lettre-là, qui est une lettre du niveau que ces deux présidents doivent s'échanger. C'est pas une lettre vulgaire, banale, qui va sur les détails, les coins de rue. Non, c'est une lettre de générale, de vision globale, de vision de société, de vision du monde. Et je dis au président d'Haïti, écoutez, vous avez une vision du monde à assumer dans les Amériques. Vous êtes l'héritier du banc d'essai des Amériques. C'est en Haïti que s'est fait tous les tournants des Amériques. Donc, il y a une obligation qu'Haïti doive porter. On dit tellement que c'est le pays le plus pauvre que ça crée des obligations en tant que tel de prendre la parole au nom de tous les autres. Et voilà, c'est cette lettre-là et que je pense, que je propose, que je crois que le président d'Haïti devrait envoyer à M. Dominique Strauss-Kahn et puis je la soumets à tous les lecteurs et auditeurs.
Je pense que cette lettre se trouvera sur beaucoup de bureaux de personnes importantes. Voilà. Ça, j'en suis persuadé. Eh bien, écoutez, Georges Anglade, je vous remercie. On aura le plaisir de se retrouver dans une semaine.
Dans une semaine, toujours le mercredi matin.
Et pour creuser encore sur ce sujet qui est malheureusement inépuisable.
Alors c'est ça, on sera donc rendu à la pauvreté prise-toi la semaine prochaine. Et chaque mercredi matin, je serai au micro de Magique 9 avec grand plaisir pour commenter l'hebdo
de la veille. Le plaisir est pour nous et pour nos auditeurs. Au revoir, bonne journée.
Merci beaucoup et pareil à tout le monde.